J'aimerais parler sur comment répondre à l'accusateur. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Nous avons tous commis des choses dont nous ne sommes pas fiers dans la vie. On a fait des erreurs, on a fait des mauvais choix, on s'est retrouvé dans des situations avec les portes fermées, avec peut-être des gens qui s'en sont retournés contre nous. Et toutes ces situations, bien, nous en portons les conséquences, bien souvent. Et il y a des choses dont nous ne sommes pas fiers, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Nos échecs, nos erreurs, les mauvais chemins qu'on a pris, eh bien, tout cela fait partie de notre vie. Mais nous croyons que Dieu est celui qui restaure les cœurs brisés, il est celui qui rend droit les sentiers tortueux, il permet que nous puissions sortir des situations sans issue. Mais néanmoins, en tant que chrétien, il ne faudrait pas tomber dans le piège de nous laisser assaillir par des pensées de culpabilité pour des péchés pour lesquels on a demandé pardon. Si vraiment on a reconnu notre erreur, et on a tous commis des erreurs dans la vie, il n'y a pas personne qui est parfait, il n'y a personne qui ne commet jamais d'erreur. Donc, si vous n'avez jamais commis d'erreur, immanquablement, tôt ou tard, ça viendra. Ça fait partie de la nature humaine avec ses limites, ses forces et ses faiblesses. Eh bien, si humblement vous reconnaissez votre péché, comme on l'a chanté, « Pardon, Seigneur, pardon, je te demande pardon pour mes erreurs », et que, avec une attitude de repentance et de foi, vous venez au Seigneur, eh bien, il efface nos péchés et nous donne un nouveau départ. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que, bien que pardonné, et je crois ce soir dans le réel pardon gratuit, c'est l'œuvre de la croix, c'est un cadeau qui nous est donné, c'est comme une nouvelle vie. Quand on se convertit, est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous l'avez accepté, là, vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme une page, une nouvelle page qui commence. Mais malgré cette nouvelle page qui commence, il y a eu quelques ratures par-ci, par-là. Il y a eu quelques péchés, il y a eu quelques fautes, il y a eu quelques égarements. Et à chaque fois, on demande pardon, on revient à Dieu de tout notre cœur. Maintenant, il ne faudrait pas laisser l'ennemi, ou ici appelé Satan, l'accusateur, dont la spécialité, c'est d'accuser les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Donc, Satan, il passe son temps à accuser. Et il ne faudrait pas le laisser nous accuser pour des péchés dont nous avons demandé pardon à Dieu. Si nous avons demandé pardon à Dieu, ces péchés sont effacés. Et nous avons un avocat auprès du Père. Ici, il est question de l'ange de l'Éternel. Et vous le savez peut-être que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel n'est pas un ange ordinaire, c'est une manifestation de Christ avant son incarnation. Donc, nous avons besoin, comme Josué qui était couvert de vêtements sales, pourtant c'était le souverain sacrificateur, nous avons besoin d'un avocat qui va défendre notre cause auprès de Dieu. Comment faire quand le diable nous accuse? Eh bien, nous n'avons pas les moyens de nous défendre nous-mêmes, déjà ça, c'est important de le réaliser, nous avons besoin d'un avocat. Un petit peu comme quand on va dans un procès, on n'est jamais les mieux placés pour défendre notre propre cause. C'est pour ça qu'on a des avocats qui vont plaider pour nous en disant, voilà, toutes les circonstances atténuantes, ceci, cela, et qui vont permettre de vous en sortir dans un procès. Un avocat, c'est bien meilleur que nous, ils sont des professionnels, ils savent les lois, ils savent les arguments, ils pourront nous sortir souvent d'affaires, les avocats. Mais nous, nous avons un avocat qui est supérieur à tous les avocats, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lui, c'est l'avocat par excellence. Si vous l'avez de votre côté dans un procès, même si c'est le diable qui vous accuse, vous avez un bon avocat, Jésus. Alors Jésus, il va défendre votre cause. Encore faut-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, reconnaître nos péchés et demander pardon. Parce que cet avocat, en fait, ne pourra plaider pour nous que dans ce cadre-là. Imaginons un chrétien qui refuse de se repentir, qui vit dans le péché, qui persévère dans ses mauvaises pensées, dans son péché, qu'il entretient. Mais lui, il n'aura pas l'avocat en sa faveur, parce que l'avocat va travailler dans un cadre bien précis, qui est celui de la repentance et de la foi. Si ce chrétien refuse de se repentir, de reconnaître son péché, d'humblement venir à Dieu et de demander pardon, il n'aura pas l'avocat. Vous imaginez, vous êtes accusé sans avocat. Vous êtes vraiment en sale position, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc oui, le diable accuse, oui, nous avons un avocat dans la mesure où nous confessons nos péchés et nous reconnaissons qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Mais il y a la repentance et la foi. Le premier point, c'est le rôle de l'accusateur. Il ne change pas. En fait, ce que nous voyons là, qui s'est passé plusieurs siècles avant la venue de Jésus, eh bien, la tactique du malin n'a pas évolué. Il attaque toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il accuse. Revenons un peu sur le plan historique, puisque Zacharie écrit ici l'histoire de Josué. Alors, Josué, ce n'est pas celui que l'on connaît bien, qui était le serviteur de Moïse. C'est un autre Josué qui, lui, était souverain sacrificateur, c'était bien après. Et l'histoire se situe dans la ville à l'origine de Babylone, puisque tous ces Juifs avaient été déportés à Babylone. Donc tout a commencé là. Et le roi de Perse, qui s'appelait Cyrus, a autorisé un décret, c'est-à-dire qu'il a signé un papier, qui permettait aux Juifs de retourner dans leur terre et d'adorer leur Dieu. Et il y a deux personnages clés qui sont bien mentionnés dans le livre d'Esdras. C'est Josué, dont nous avons ici au chapitre 3, au verset 1, la description. Josué, le souverain sacrificateur, on va dire, le leader spirituel. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs, c'était les prêtres, c'était ceux qui offraient les sacrifices, c'était ceux qui priaient pour le peuple, etc., qui étaient en communion avec Dieu. Donc, on a bien le souverain sacrificateur, c'est Josué, donc la lignée spirituelle est là. Et il accompagnait Zorobabel. Zorobabel, c'était la lignée royale. Pourquoi ? Parce que Zorobabel, il descendait du dernier roi de Juda. Et donc, il représentait la lignée royale. C'est par Zorobabel, finalement, que même s'il ne régnait plus, en fait, il était descendant de sang royal. Donc, vous avez deux personnages importants. Une descendance royale avec Zorobabel, une descendance spirituelle avec Josué, et les deux qui s'associent, donc, sont revenus en Israël pour rétablir l'autel qui avait été détruit, pour rétablir les fondements du temple parce qu'ils avaient été saccagés. Il y avait eu 70 ans de déportation, tout cela, ça avait été imaginé que pendant 70 ans, il n'y avait plus de culte dans le temple, c'était catastrophique, il fallait tout remettre en place. Donc ils ont remis en place les holocaustes, les fondements du temple et puis surtout le culte. Comment adorer Dieu, revenir à Dieu, la prière, la foi. Puis il y a eu un réveil spirituel d'ailleurs à cette occasion. Et dans cette vision, puisqu'il s'agit d'une vision, il me fit voir. C'est donc Zacharie le prophète qui a une vision spirituelle de la part de Dieu. Il voit le personnage principal qui s'appelle Josué, ce souverain sacrificateur, il le voit. Et il voit à côté de lui un autre personnage qui est l'accusateur, il est nommé par son nom, c'est Satan. Satan, il est appelé même l'accusateur des frères dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 10, c'est-à-dire celui qui les accuse jour et nuit. C'est son travail. Il souligne votre faiblesse, comme il le fait pour Josué, un petit peu comme quand Pierre a renié Jésus. Il montrait à Pierre Jésus a dit, Il cherche à vous cribler comme le froment, donc il a montré à Pierre qu'il était incapable, qu'il n'était pas un vrai croyant. Il va souligner tous vos manquements, vous montrant que vous n'êtes pas assez fidèle, que vous passez pas assez de temps à l'église, que vous vous occupez pas assez de vos enfants, etc. Il va vous culpabiliser. Il va souligner votre incapacité. Je pense à cette parole de Saül au jeune David. David qui vient avec toute sa foi pour affronter Goliath. Et Saül, c'est comme s'il jetait un seau d'eau sur sa foi en disant « Mais tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas. » Et cette parole-là, c'est une parole de l'adversaire. Tu ne peux pas faire. Les choses que tu crois que tu peux faire, tu ne peux pas les faire. Et tout cela, ça aurait pu arrêter David, heureusement qu'il était rempli de Dieu. Mais il va tenter de vous arrêter avec « tu ne peux pas, arrête de faire ce service, arrête de faire cette activité, tu ne peux pas remporter la victoire. » Il va vous culpabiliser en vous montrant que c'est votre faute si la situation est si catastrophique, vous feriez mieux de tout arrêter. Il va vous charger, c'est-à-dire il va vous culpabiliser de telle sorte que vous allez avoir envie de baisser les bras, d'abandonner. Par exemple, souvent, des gens disent « qu'est-ce que je suis nul ? Alors, je suis un raté, j'ai complètement… tout est à côté. » Mais personne n'est nul, nous avons tous une valeur. Voyez une pièce de 1 euro, par exemple. Une pièce de 1 euro, si vous la trouvez dans la boue, on a marché dessus, elle est rayée, elle est abîmée, elle est toute vieille. En réalité, sa valeur, elle vaut combien, cette pièce ? Elle vaut toujours 1 euro. Même si elle est tombée dans la boue. Vous la lavez, vous la nettoyez, vous pouvez aller acheter une baguette avec, il n'y a pas de problème. Elle vaut toujours 1 euro. Et vous prenez 1 euro qui sort de la banque, tout neuf, il ne vaut pas plus qu'1 euro. La valeur, elle ne change pas en fonction de nos situations. Notre valeur, en fait, aux yeux de Dieu, elle est tellement importante que Jésus a versé son sang pour nous racheter. Donc notre valeur, elle est là. Et le diable, lui, il va tout faire pour vous dévaloriser. Il y a des gens, ils se sentent tellement si peu de valeur qu'ils vendent leur corps. Ils se sentent si peu de valeur qu'ils sont prêts à se suicider. Ils se sentent si peu de valeur que pour eux, ils se droguent. Ils détruisent, en fait, le corps que Dieu leur a donné. Ils ne comprennent pas la valeur, la vraie valeur que nous avons quand nous réalisons qui nous sommes en Christ. Il va, donc le diable, il continue à culpabiliser, à placer sur vos épaules des lourds fardeaux. Il y a des gens, ils sont courbés, ils sont abattus, comme chargés de plein de soucis. Déjà, nous avons les soucis du quotidien, mais peut-être vous vous inquiétez pour votre avenir, pour vos enfants, pour votre travail, pour des relations conflictuelles, vous n'avez pas de solution, et ils vous chargent de fardeaux continuels. Ils vous maudissent aussi. Ils vous maudissent un petit peu comme Goliath l'a fait avec David. La Bible dit que Goliath, il maudissait David par ses dieux. Eh bien, le diable, il maudit les chrétiens. Il maudit les chrétiens, il dit des choses mauvaises sur eux, et c'est son activité avec tous ses mauvais esprits. Il met aussi devant vos yeux tous vos péchés pour que vous soyez des chrétiens faibles, des chrétiens qui sont limités, des chrétiens qui sont culpabilisés. Il va vous mettre des bâtons dans les roues si vous servez le Seigneur. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était quand même, pour nous, c'est un modèle de consécration, de service. Un homme qui allait de lieu en lieu, qui prêchait la parole de Dieu, qui ouvrait des églises, extraordinaire ministère. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, il dit « Nous voulions venir vers vous ». Il dit aux Thessaloniciens « Nous voulions venir vers vous ». Mais Satan nous en a empêchés. Il met des bâtons dans les roues. Il empêche des projets de s'accomplir. C'est pourquoi nous avons besoin de prier dans la foi et dans le nom de Jésus pour briser toutes les œuvres que Satan a placées devant nous, afin que les projets de Dieu s'accomplissent selon la volonté de Dieu. Il y a un combat. Il y a un combat spirituel, frères et sœurs, qui est difficile. L'apôtre Paul, vous voyez, il a été empêché. Peut-être que la fois d'après, il a réussi, parce qu'il dit que deux fois, il en a été empêché, mais la troisième fois, peut-être, c'était la bonne. Et nous ne savons pas comment Dieu va diriger. Mais en tout cas, il ne faut pas baisser les bras jusqu'à 2, 3, 4 fois. Si on est empêché, mais nous connaissons celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Restons confiants dans le Seigneur. Alors, Jésus résume bien son activité dans Jean chapitre 10, verset 10. Il l'appelle le voleur. Alors, voyez ces noms. Ici, c'est Satan. Satan, c'est celui qui calomnie. Tout à l'heure, on a dit qu'il est appelé l'accusateur, celui qui culpabilise. Ici, Jésus l'appelle le voleur. Le voleur, pourquoi ? Parce qu'il vole les bénédictions. Par exemple, Dieu, sur votre vie, il donne des bénédictions, il donne des grâces, mais il y en a un qui vient pour enlever. Alors peut-être, d'autres grâces arrivent, mais lui, il vient pour enlever. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc c'est son activité. C'est pourquoi vous devez conserver dans votre cœur les grâces et les projets, les bénédictions, les plans que Dieu a sur vous. Il y a un texte qui dit que Marie repassait sur son cœur les promesses de Dieu. Elle avait la promesse qu'elle enfanterait Jésus. Eh bien, elle repassait les promesses de l'ange. Tout ce que l'ange lui avait dit, elle le repassait parce que c'était tellement difficile. On pouvait l'accuser d'être allée avec un homme alors qu'elle était mariée, elle pouvait être lapidée. Elle repassait les promesses de Dieu dans son cœur. Elle aurait pu être découragée à mille et une reprises. Et le voleur, il venait pour enlever ses bénédictions, ses grâces. Mais Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous voyez ? Les bénédictions, elles sont là. Que nous ayons la vie, mais une vie d'abondance. Donc Dieu donne. Il donne des bénédictions, il donne des grâces. Et l'autre, il s'efforce de, par derrière, de voler tout ce qui peut grappiller. Alors que faire ? Que faire quand le flot d'accusations, ici, on a Josué qui est là couvert de vêtements sales, ces vêtements qui représentent les péchés qu'il a pu accomplir. Et puis à côté, le malin Satan qui l'accuse. Première chose que nous devons faire, c'est ne pas écouter les paroles du malin. Les paroles du diable sont mensongères. Si vous écoutez les paroles de dévalorisation, les paroles de jugement du diable, eh bien ces paroles vont avoir une influence sur votre vie. Vous voyez, quelqu'un comme l'apôtre Pierre, ce n'était pas n'importe qui quand même, c'était un des principaux disciples du Seigneur, un des leaders. Il a d'ailleurs conduit l'église de Jérusalem au début avec les apôtres, il était un des leaders. Et bien à un moment donné, il s'est laissé, ses paroles, ce n'était pas ses paroles à Pierre, c'était les paroles du diable. Quand il a dit à Jésus, cela ne t'arrivera jamais, quand Jésus parlait de la croix. Donc à un moment donné, il s'est laissé piéger en écoutant la pensée du malin. La pensée du malin était mauvaise. Il ne l'a pas vu venir, peut-être, parce que vous savez, le diable, il ne viendra jamais d'une manière très démonstrative. Il ne viendra jamais sous son vrai visage, si vous voulez. Il viendra sous un angle un petit peu caché. C'est pour ça que la Bible dit qu'il se déguise. Il se déguise en... Il se déguise en quoi, le diable, d'après vous ? En ange de lumière. Il ne se déguise pas en démon, par exemple. Ce serait trop facile. On verrait que c'est un ennemi. Il se déguise en ange. On fait tous confiance aux anges de lumière parce qu'ils sont du bon côté. Mais voilà comment il vient. Donc vous, c'est pour ça qu'à un moment donné, il nous faut du discernement spirituel et réaliser que ce n'est pas un ange qui parle, c'est un mauvais esprit. Et ça, on ne peut le percevoir qu'avec une communion avec le Seigneur. N'écoutez pas la voix du malin. Discernez quelle est la bonne voix, la voix de la parole de Dieu, la pensée de l'esprit, et discernez si cette pensée-là ne vient pas de la chair ou si elle ne vient pas du malin, parce que ça, c'est des paroles qui sont semées pour la destruction. Elles peuvent paraître bonnes. Hein. Quand je prends les paroles de Pierre, elles paraissaient bonnes parce qu'il disait « Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas ». Il disait ça pour le bien du Seigneur, ce n'était pas des paroles à première vue mauvaises pour Jésus, mais en réalité, c'était caché. C'était caché. Jésus l'a discerné. Deuxième chose que nous devons faire, ne pas l'écouter, et si nous entendons ce qu'il dit, ne pas le croire, ne pas y adhérer, parce que le diable est un menteur, c'est écrit dans Jean 8, 44. S'il vous dit, tu n'as pas besoin de Dieu, il ne t'a pas aidé la dernière fois, il ne t'a pas exaucé, ça ne sert à rien de prier, ne croyez pas ses paroles. Et troisièmement, priez celui qui est tout puissant pour vaincre l'adversaire, c'est-à-dire Jésus notre avocat. Jésus défend notre cause. Donc nous, si vous voulez, on n'est pas seul dans le combat. On a Jésus qui est avec nous. Il y a Jésus notre avocat, mais je dirais c'est le numéro un. Et ensuite nous avons les frères et sœurs qui sont des soutiens spirituels. Mais si vous avez l'avocat, Allez, même si vous aviez personne, vous avez tout. Mais si vous n'avez pas l'avocat, là, on se met toute l'église de Toulouse-Ouest à prier, il manque quelque chose. L'avocat, c'est numéro un. C'est-à-dire, si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien, quand bien même vous avez 100 personnes qui prient pour vous. L'avocat, c'est tellement déterminant parce que c'est lui qui va défendre votre cause devant Dieu. C'est-à-dire que ni moi, ni vous, nous ne pouvons défendre la cause de quelqu'un devant Dieu comme Jésus. Jésus a un pouvoir en tant qu'avocat qui est spirituel, qui est céleste, qui est divin. C'est le pouvoir de Christ. Donc nous, nous prions Christ, notre avocat, et en fait, nous ne sommes pas les mieux placés pour nous défendre nous-mêmes. Donc Josué ne disait rien, il priait dans son cœur, il était accusé par Satan, voilà, il était fautif, couvert de vêtements sales. Mais arrive l'ange de l'Éternel, c'est l'avocat, c'est Jésus, et Jésus va défendre notre cause devant Dieu. Et c'est lui qui va ouvrir la bouche. Nous, nous prions Jésus. Jésus, il parle à Dieu et il prend notre défense. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique. Ça nécessite, un, la repentance, deux, la foi. Si on n'a pas la repentance et la foi, l'avocat ne pourra pas intervenir en notre faveur. L'avocat, il est gratuit, c'est vrai, il n'y a rien à payer. Ça, c'est un gros avantage quand on sait les prix que ça coûte des procès. Donc, merci Seigneur, tout est gratuit. Mais la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de demander pardon pour nos péchés et de croire que son sang nous purifie. S'il n'y a pas ces deux éléments qui doivent s'imbriquer l'un dans l'autre, ben, l'avocat ne peut pas s'appuyer sur quelque chose en nous qui permet de nous défendre devant Dieu, puisque nous n'avons pas ni la foi ni la repentance. Donc Jésus sait très bien comment nous défendre si nous avons fait notre part. Le deuxième point, c'est maintenant la situation de Josué, qui n'est pas brillante. Josué, verset 3, il était couvert de vêtements sales, et c'était comme un tison arraché au feu. Il est comme un tison arraché au feu. Qu'est-ce que c'est un tison ? C'est un morceau de bois là, qui est en train de brûler, qui a été arraché avant qu'il ne brûle complètement. Donc il était vraiment en mauvaise posture. Mais en réalité, c'est un peu notre situation avant de connaître le Seigneur. On était comme un tison, c'est-à-dire on brûlait dans le feu du péché, le feu de la géhenne, comme dit Jésus. C'est un feu qui nous touchait parce que nous étions contaminés par la pensée du monde. Donc, la pensée du monde qui conduit à la mort éternelle, et nous en avons été arrachés. Colossiens 1, verset 12 dit ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » On dirait qu'il a été arraché comme le tison, il a été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de Christ. Alors c'est pareil, on était incapable et le texte dit « il nous a rendus capables ». Donc il y a eu transformation. Nous étions sans héritage et le texte dit qu'il nous a transportés dans un héritage, un royaume. Nous étions esclaves, et le texte dit qu'il nous a délivrés de la puissance de l'esclavage. Donc nous avons été arrachés au feu par la grâce de Dieu. Et le deuxième élément qu'on voit, c'est qu'il était couvert de vêtements sales. Eh bien ça, c'est l'image de nos péchés. Voyez-vous, nos péchés, alors là, on est tous bien habillés, on a tous des beaux vêtements sans tache. Mais spirituellement, on a un vêtement, tous on a un vêtement. Et personne ne peut voir les taches de ce vêtement si ce n'est Dieu. Mais on a un vêtement invisible, un vêtement spirituel qui doit être blanc, qui doit être purifié. C'est-à-dire que le sang de Christ va effacer les taches. Sauf que, à cause de nos péchés, il y a des taches qui réapparaissent. Donc nous avons besoin que ce vêtement soit gardé blanc, pur, nettoyé. On a cette parabole du fils qui s'est égaré, celui qui a quitté la maison du père, c'est le plus jeune. Quand Jésus dit un homme avait deux fils et le plus jeune est parti dépenser l'héritage dans la débauche, eh bien, il a sali son vêtement. Il a sali son vêtement, on pourrait dire littéralement, il a sali son vêtement en allant garder des pourceaux et en se tenant parmi les pourceaux, en mangeant ce que mangeaient les pourceaux. Donc, quand il revient à la maison parce qu'il a une prise de conscience que sa vie n'est pas ici, que Dieu a un plan pour lui, il demande pardon, il revient, mais il a son vêtement sale. Pour parler de son vêtement réel, mais en même temps, son vêtement spirituel est sale aussi. Et son vêtement est tellement sale, imprégné de cette odeur nauséabonde des cochons, des porcs qu'il a côtoyés, ça imprègne ce vêtement. Le père, dès que le fils arrive, il lui dit « Mais ôtez-lui ses vêtements et revêtez-lui d'une robe neuve, une robe propre, une robe blanche. » C'est-à-dire, ces vêtements sales, Dieu veut les purifier. Il veut vous donner un vêtement blanc, un vêtement pur, c'est-à-dire une vie pure, non pas remplie de péchés, remplie de ces erreurs, ces souillures, tout ce qu'on a côtoyé qui est mauvais, comme ces cochons-là qui étaient imprégnés de cette odeur nauséabonde, eh bien maintenant, il a un vêtement pur, blanc. Et là, il va le garder blanc. Le péché va toujours générer des taches. Voyez dans Jérémie 13, 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien ?» Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Il y a des taches. On parle bien de ce vêtement spirituel. Ces taches-là, elles ne partiront pas, si ce n'est par la repentance et la foi. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la recherche dans une religion, c'est la foi et la repentance qui permet le pardon de ces péchés. Dieu voit notre vêtement, il voit s'il est propre, s'il est sale. Et chose assez extraordinaire, c'est que Dieu est capable instantanément de changer un vêtement qui est rempli de taches et de le rendre aussitôt blanc. Et ça, il peut le faire, mais instantanément. On le voit dans plusieurs exemples dans le Nouveau Testament. Il y a des pharisiens qui un jour étaient autour de Jésus, ils étaient là, il y avait la foule qui était là, et puis quatre hommes qui voulaient apporter un homme pour que Jésus prie pour lui. Alors, ne pouvant pas passer, ils ont ouvert le toit et ils ont descendu le paralytique devant Jésus. Et là, Jésus lui dit une parole qui est la preuve qu'il va laver son vêtement. Il lui dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'instantanément, cet homme qui avait des vêtements sales, il a eu des vêtements blancs, tout d'un coup, instantanément. Ça n'a pas duré une heure, ça n'a pas duré trois jours. Quand Jésus a dit « Tes péchés te sont pardonnés », il a été pardonné, lavé, vêtements blancs. Et la preuve, les pharisiens qui raisonnaient en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. En effet, il n'y a que Dieu qui est capable de dire, toi, tu as des vêtements sales, je rends tes vêtements blancs, et les vêtements sont blancs. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Eh bien, Jésus a le pouvoir de le faire. Donc, ça veut dire qu'il est Dieu, il est vraiment le Fils de Dieu. Les gens croyaient qu'il blasphémait. Jésus leur dit, c'est dans Luc 5, 22, « Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» Jésus connaissait leurs pensées. Ça veut dire que ces pharisiens qui jugeaient cet homme, à qui Jésus maintenant a dit, « Tes péchés sont pardonnés », c'est comme s'il avait dit, « Maintenant tu as un vêtement blanc ?» Eh bien, eux, à cause de leurs pensées, qu'est-ce qu'il y avait dans leurs vêtements? Il y avait des taches. Il y avait du péché dans leur vie. Et Jésus ne leur a pas dit « Vos péchés sont pardonnés ». Pourquoi? Parce que la différence de cet homme qui est reparti avec des vêtements blancs, il avait la repentance et la foi. Les pharisiens, ils étaient dans un regard extérieur de jugement, attentiste. Ils n'étaient pas dans la foi. Ils n'ont pas cru que Jésus pouvait pardonner leurs péchés. Je termine avec un dernier point. Troisième point, c'est le rôle de notre avocat. Puisqu'on voit ici l'ange de l'Éternel, la Bible dit que l'ange de l'Éternel se tenait à côté de Josué. Mais qui est l'ange de l'Éternel? Bien, nous savons que c'est une image de Christ. Parce que quand l'ange de l'Éternel parle, la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Donc il est vraiment uni à Dieu, cet ange, un peu comme Christ est uni à Dieu. Il a toutes les caractéristiques de Jésus. Même l'ange de l'Éternel peut pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut faire. Donc l'ange de l'Éternel, c'est vraiment l'image de Christ. Et quand on vous accuse, quand on dit du mal de vous, eh bien il y a l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, notre avocat. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est là, prêt à défendre votre cause. Regardez ce que dit Jean dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie, que nous soyons gardés avec ses vêtements blancs. « Et si quelqu'un a péché, voilà une tache qui arrive sur le vêtement, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. » Ça veut dire que la croix est assez puissante pour effacer tous les péchés. Les péchés, c'est-à-dire tous les vêtements remplis, un petit peu comme Josué, qui sont remplis de péchés sales, eh bien, la croix, non seulement pour les nôtres, il dit, mais pour ceux du monde entier. Et il y en a du péché dans le monde entier. C'est énorme. Et donc, tout est en Christ. Alors, que fait cet ange? Il fait deux choses. Premièrement, il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Il n'est pas question de rester avec le péché qui nous environne. Ça veut dire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a une condition, bien sûr, c'est la foi. Puisque tout ce qui est spirituel se passe dans la foi. Voyez, la grâce, c'est très différent des concepts du monde. Dans le monde, par exemple, pour avoir quelque chose, il faut payer. Il faut payer pour un service. Si vous voulez aller, par exemple, si vous devez faire un déplacement, il faut payer. Il faut payer soit le train, soit l'avion, ou soit il faut payer l'essence pour mettre dans la voiture. Il faut toujours payer quelque chose pour un service. Mais la grâce, c'est que tout a été payé pour nous. Ce n'est pas un concept du monde. C'est Dieu qui, dans sa grâce, a dit « je vais payer pour vous ». Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Il purifiera. C'est quelque chose qui est offert, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est acquis pour nous. Donc il n'y a rien à payer, vous n'avez pas à payer comme vous payez par exemple un billet d'avion, comme vous payez pour mettre de l'essence dans votre voiture. Là, il y a quelque chose qui a déjà été fait et à la croix, il est là. Et c'est à nous de le saisir par la foi. Donc ces vêtements sales terminés, revêtez-le d'habits de fête, c'est la deuxième chose. Pour nous, c'est l'image du vêtement blanc. Nous avons un vêtement spirituel maintenant qui est pur, qui est sans tache. C'est celui de Christ qu'il nous donne. C'est un vêtement de louange, un vêtement de fête. Donc, à nous de porter le vêtement blanc et de nous garder du péché, de nous garder des séductions de ce monde, de marcher droit dans le chemin de Dieu. Alors, il y aura toujours des gens pour vous entraîner. Retour en arrière. Revenez. Viens avec nous pour critiquer, pour dire du mal des autres, viens avec nous. Mais à vous de dire non. Ça, c'était mon ancien vêtement. Aujourd'hui, j'ai revêtu le vêtement de Christ. Je n'ai plus besoin de vos critiques, de vos jugements, de vos fardeaux. Tout cela, je n'en veux plus. Et puis, il rajoute un turban sur sa tête. Ça nous parle de nos pensées qui doivent être en Christ. La tête, c'est vraiment un champ de bataille où se livrent les pensées les plus nobles et les pensées les plus viles. Donc, il y a un conseil dans la parole de Dieu, c'est que nous ne devons pas laisser nos pensées vagabonder. Nous devons les entretenir par des bonnes choses. Et la Bible dit, c'est Paul qui le dit, il dit « entretenez-vous dans vos pensées, dans votre esprit, par des psaumes, la parole de Dieu, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ne laissez pas les mauvaises pensées dominer, prendre racine. Gardez le turban pur sur votre esprit, c'est-à-dire entretenez-vous de bonnes choses. Si on lit Philippiens 4, 8, il y a huit choses auxquelles nous devons penser constamment. Et si nous le faisons, nous n'aurons pas de place pour les mauvaises pensées. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, première chose, tout ce qui est honorable, deuxième, tout ce qui est juste, troisième, tout ce qui est pur, quatrième, tout ce qui est aimable, cinquième, tout ce qui mérite l'approbation, sixième, tout ce qui est vertueux, septième, tout ce qui est digne de louange, huitième, soit l'objet de vos pensées. Huit choses. Alors vous voyez que quand vous avez fini, vous revenez à la première et là vous avez de quoi entretenir vos pensées de bonnes choses. Et en fait, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Si vous n'entretenez pas vos pensées par de bonnes choses, eh bien, il y a des mauvaises choses qui vont arriver tranquillement. Des mauvaises pensées, des pensées qui ne sont pas de Dieu. Mais si vous prenez le temps de, chaque matin, avant d'aller au travail, de nourrir votre esprit, de la parole de Dieu, des bonnes pensées, vous remettez toutes choses entre les mains du Seigneur, eh bien, déjà, vous placez votre journée sous le regard du Seigneur. On va prier un instant. On a vu cet homme, Josué, qui est semblable à nous. Il a aussi son vêtement sale. Il a fait aussi ses erreurs. Il a péché. Il a certainement commis des choses qu'il regrette. Mais il se tient humble. Il est repentant. Il est dans la foi. Et par la grâce de Dieu, il a son avocat qui va être efficace. Jésus-Christ. Vous n'avez pas les moyens de vous défendre tout seul. Mais vous avez recours à l'avocat par excellence, Jésus-Christ, celui qui va défendre votre cause. Parce que vous êtes repentant, parce que vous êtes humble, parce que vous êtes petit, parce que vous reconnaissez que vous avez pris le mauvais chemin, eh bien vous avez un avocat qui est de votre côté, il prendra votre défense. Ne craignez pas les accusations du malin. Si les choses dont il vous accuse sont fausses, vous n'avez rien à craindre et surtout à ne pas vous en charger. Et si les choses dont il vous accuse sont vraies, c'est à vous de confesser vos péchés. Et je dirais même, il faut les confesser avant que le diable ne vous accuse. Comme ça, il ne pourra même pas avoir le pouvoir de vous accuser si vous les avez déjà confessés, parce que Jésus les aura déjà effacés. Donc, ne tardez pas à confesser vos péchés. Satan n'aura donc plus de pouvoir sur vous, rien pour vous accuser, mais si vous gardez vos vêtements sales, si vous refusez le chemin de la repentance, si vous refusez le chemin de la foi et vous dites « je m'en sortirai par moi-même », eh bien, l'ennemi a tout, aura le dessus et vous n'aurez pas l'avocat qui viendra à votre secours parce que vous refusez le chemin. Le seul chemin qui permet à l'avocat d'agir, c'est la repentance et la foi. Que Dieu nous garde dans sa présence. Merci encore pour ces exemples qui nous montrent le chemin du vrai pardon, qui nous montrent comment nous pouvons résister à l'accusateur, au malin qui constamment accuse les élus jour et nuit. Mais nous avons recours à cet avocat. Seigneur, nous voulons rester humbles et petits devant toi, reconnaissant nos péchés, reconnaissant nos égarements, te demandant pardon et recherchant ta présence et reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire, que nous avons chaque jour besoin de ton secours, que nous avons chaque jour des occasions de nous égarer. Seigneur, viens à notre secours, donne-nous ce discernement pour reconnaître aussi les actions du malin comme nous voyons qu'il se déguise en ange de lumière et nous ne voulons pas nous laisser tromper par ses paroles, par ses propos qui peuvent être camouflés. Seigneur, montre-nous comment lutter, comment combattre efficacement. Merci pour Jésus-Christ, notre avocat, Jésus-Christ, notre défenseur, Jésus-Christ qui plaide pour nous, Jésus-Christ qui est notre sauveur. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen.